Des victoires politiques et militaires à tout prix. L'effervescence et l'enthousiasme gouvernent les clubs qui inspirent l'Assemblée. Le peuple, quant à lui, subit parfois de rudes revers pendant que la guerre arrive aux frontières et que le roi est emprisonné. Bienvenue au club. Pour comprendre comment naissent, se développent et circulent les idées en cette période révolutionnaire et effervescente, il faut opérer un petit retour en arrière, revenir en mai 1789. Vous allez être témoin de la naissance des clubs où s'agitent les pensées novatrices. Les clubs ne sont pas une invention révolutionnaire. Pendant tout le XVIIIe siècle, les philosophes ont créé des groupes où la société est remise en question, où de multiples théories sont élaborées pour la transformer. En 1789, la philosophie se fait politique, et la politique des clubs associe étroitement la théorie à la pratique. Tout est parti d'un café, le café Amaury à Versailles. En mai 1789, des députés bretons s'y réunissent afin de préparer les séances de l'Assemblée, définir précisément les questions qui seront posées. Qui sont-ils ces députés qu'on imagine réunis autour d'une table, dans l'effervescence, le brouhaha des énergies qui rêvent la France nouvelle? On aperçoit un avocat de Rennes, Isaac Le Chapelier, le comte Jean-Denis Langevinet, conseiller aux États de Bretagne, Joseph-Jacques de Fermont des Chapelières, député de Châteaubriand, président de l'Assemblée nationale en 1791. Venus d'autres régions, Barnave, du Parlement de Grenoble, Sieyès, l'excellent orateur Jacques Pétion de Villeneuve, qui vient de Chartres, les frères Lamette de Péronne. Lorsque l'Assemblée nationale devient constituante et migre à Paris, le club breton la suit et s'installe rue Saint-Honoré, au couvent des Jacobins, ainsi appelé parce qu'à l'origine, ce couvent était établi rue Saint-Jacques. Le club breton devient alors la Société des Amis de la Constitution, et par métonymie, le club des Jacobins. Les rangs s'enrichissent de la présence de Mirabeau, Lafayette, Brissot, Robespierre, Talleyrand. Populaire, ce club? Pas vraiment. Il faut, pour y être admis, bénéficier de la reconnaissance de trois parrains, prêter un serment, et surtout, s'acquitter d'un droit d'entrée de 25 000 livres, c'est-à-dire une petite fortune. De 1000 adhérents en 1789 dans toute la France, le club des Jacobins passe à plus de 10 000 en 1791, répartis en 800 filiales. C'est un réseau fort efficace que la maison mère de Paris irrigue de ses idées, rapidement transmises par une abondante correspondance. Son influence sur les décisions prises par l'Assemblée est importante. Les opinions qui y sont développées sont pro-révolutionnaires, mais demeure modéré. 25 000 francs. Où trouver 25 000 francs quand on habite, au temps de la Révolution, le quartier latin, l'un des quartiers les plus pauvres de Paris? Est-ce qu'on doit pour autant se mettre en marge du mouvement révolutionnaire et laisser travailler seulement l'Assemblée constituante, inspirée par le grave et sérieux séminaire des penseurs jacobins? Non. Au quartier latin, ce n'est pas une cotisation qui permet de militer pour la liberté, c'est l'espoir, l'immense espoir de tous, sans distinction. Dans les cafés, on discute. Dans les 48 sections de la Commune de Paris, on s'échauffe. Des dizaines de petits groupes se constituent qui publient leurs feuilles souvent chaque jour. On dénombre 340 titres de journaux à Paris, près de 500 en province. Au quartier latin, l'une de ses feuilles est particulièrement engagée. Son langage est direct, souvent violent. Il frappe comme un coup de poing. Son titre, le père Duchesne. Son rédacteur principal, Jacques Hébert. Un domestique, ancien contrôleur au Théâtre des Variétés. Hébert est issu du peuple. Il est le peuple. Sa plume embroche les aristocrates, tous les riches, quels qu'ils soient, et tous ceux qu'ils considèrent les ennemis des siens, les pauvres oppressés, exploités, épuisés par l'impôt, révolté par l'injustice. Excessif parfois, Hébert récolte le surnom d'Homère de l'ordure.
Georges Danton et sa hure au club des Cordeliers. Suivons jusqu'à son club, Jacques Hébert, qui vient de distribuer son Père Duchesne. Il emprunte la rue de l'école de médecine, s'arrête au niveau de la rue de Hautefeuille. Il pénètre dans l'ancien couvent des Cordeliers, ces moines qui faisaient vœu de pauvreté, possédant tout en commun. Assis autour des tables, debout, on parle fort. C'est une effervescence d'idées dans une atmosphère surchauffée où se côtoient des artisans, des ouvriers, des domestiques, des laissés-pour-compte, des rêveurs, des femmes, des enfants. Vous venez d'entrer au Club des Cordeliers, fondé en avril 1790. Qui sont ceux-là que vous venez de remarquer sans peine, à leur air décidé, à leur emportement? Ce sont les meneurs, Georges Danton et sa hure sculptée par la charge d'un taureau qui lui avait arraché la lèvre supérieure alors qu'enfant il têtait une vache. Camille Desmoulins qui se bagarre avec les syllabes, Jean-Paul Marat à l'épiderme malade, Fréron, créateur d'une feuille, l'orateur du peuple qu'il signe du nom de Martel, Chaumette qui vient de Nevers et qui rêve de créer une déesse nommée Raison. Le voilà, ce club des Cordeliers, le foyer le plus vif, le plus enflammé, le plus déterminé de la Révolution, avec tout ce que cela peut entraîner.